France Inter, le 13-14, Bruno Duby.
À l'échelle du monde numérique et de son histoire, c'est l'équivalent du premier texte imprimé, le tout premier SMS a été vendu hier aux enchères pour 107 000 euros. Le message tenait en deux mots, Joyeux Noël, rédigé en décembre 1992. 107 000 euros donc, le SMS était mis aux enchères sous forme de NFT, Non-Fungible Token, jeton non-fongible en français. Ce qui peut s'apparenter à une monnaie et plus encore à des titres de propriété est en train de bouleverser le monde numérique. Les NFT, c'est quoi exactement? Comment ça marche? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui jusqu'à 13h45. J'attends vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. 01 45 24 7000 ou l'application France Inter rubrique Réagir. Notre invitée est directrice de recherche à l'université d'Harvard aux États-Unis et auteure en France d'un livre dans la collection Que sais-je? Blockchain et crypto-monnaie. Bonjour Primavera de Filippi.
Bonjour.
NFT, on dit crypto-monnaie bien souvent, mais c'est davantage un titre de propriété, c'est bien cela ?
Oui, donc c'est une preuve que on possède une dans le cas des NFT qui s'appliquent évidemment donc aux œuvres numériques, c'est une preuve que l'on possède un titre par rapport à cette œuvre numérique.
Voilà, ce qui pose la question de la rareté, on y revient dans un instant, on continue sur la définition non fongible. Cela veut dire qu'ils sont uniques et ne peuvent pas s'échanger. Un Bitcoin en vaut un autre, je peux les échanger, un euro en veut un autre, je peux changer les deux là aussi, pas un NFT parce qu'il correspond à une œuvre, un objet précis, c'est bien cela ?
Voilà, donc on peut les échanger évidemment, mais lorsqu'on les échange, il y a vraiment une transaction d'échange, mais l'un n'est pas équivalent à l'autre.
Titre de propriété unique infalsifiable, ça passe par la technologie de la blockchain qui permet de transférer des valeurs de manière sécurisée, et c'est important, décentralisé, sans intermédiaire.
Ouais, donc voilà, différence de normalement que lorsqu'on transfère de l'argent, notamment sur Internet, on va passer par une banque, on va passer par PayPal, Lydia, etc. Voilà. Parce que tout simplement, on ne se fait pas confiance, donc on va passer par un intermédiaire de confiance. Avec la blockchain, on n'a plus besoin de se faire confiance et on n'a plus besoin de l'intermédiaire de confiance, puisque dès lors qu'on fait confiance à la technologie sous-jacente, on sait que les transactions vont être effectuées. Exactement comme prévu.
Voilà pour les éléments de définition et de contexte. Alors maintenant, Primavera de Filippi, application des NFT, dans quels univers peuvent-ils servir ?
Oui, donc là, en fait, les NFT, ça existe depuis longtemps, avant même que la terminologie NFT a été introduite. Et tout simplement, un NFT, c'est une ressource numérique sur un blockchain où, en fait, à différence des crypto-monnaies justement qui sont fongibles et donc où il y a plusieurs centaines ou milliers ou millions de crypto-monnaies qui vont être émises et qui sont toutes équivalentes l'une avec les autres, les NFT, c'est tout simplement donc des tokens ou des jetons en français qui sont émis sur une blockchain et qui ont leurs propres caractéristiques qui les rend uniques et donc qui leur permettent de se différencier des autres. Et donc, en fait, ça a été utilisé depuis longtemps pour la création, tout simplement, donc de ressources uniques. Et récemment, donc, il y a eu cette grande explosion qui a été faite par rapport aux œuvres d'art numériques, puisque ça permet pour la première fois dans l'histoire, en fait, à des artistes numériques de vendre des copies. Mais évidemment, l'NFT peut être utilisé dans plein d'autres champs d'application, que ce soit notamment, donc aujourd'hui on parle beaucoup pour le métavers, donc pour associer des NFT aux ressources virtuelles qui existent, donc aux avatars, aux accessoires des avatars, aux terrains, etc. Donc en fait, tout ce qui est numérique et qui en fait n'a pas de rareté dans sa propre immatérialité peut être rendu rare et donc échangeable et donc commercialisable grâce à cette technologie.
Objet virtuel, œuvre d'art numérique, personnage de jeux vidéo, espace en effet dans des mondes virtuels, c'est là que je voulais en venir. Au fond, ce que la blockchain et les NFT inventent ou réinventent, c'est, vous le disiez, la rareté dans le monde numérique, qui est un monde où tout se copie, les œuvres d'art, les films, les vidéos, on réinvente la rareté.
Voilà, on réintroduit la possibilité en fait de reconnaître la notion de copie numérique, qui est une notion qui, jusqu'à avant l'arrivée de la blockchain, n'avait pratiquement aucun sens, puisque une copie peut être toujours reproduite. Et grâce à la blockchain, puisqu'on peut créer des ressources numériques qui ne peuvent pas être reproduites, en commençant par les crypto-monnaies, puis en passant par les NFT, en fait, on peut réintroduire cette notion, ce concept de copie, peut être réintroduit aussi dans ce monde virtuel.
De copie et d'original. L'œuvre d'art numérique qui s'est vendue à plus de 69 millions de dollars via des NFT en marché Christie, cette œuvre, il en existe des copies sur Internet, mais seul l'acheteur à l'original qui est au fond quoi ? Un fichier informatique ?
Bah non, justement, oui, enfin, c'est même pas un fichier informatique. C'est tout simplement le fait que l'adresse de la personne qui détient la NFT est enregistrée sur la blockchain comme étant le propriétaire de cette œuvre. Et donc, en fait, c'est un peu, si on cherche une analogie, c'est un petit peu comme quand on fait les lithographies ou les photographies à édition limitée. Donc, évidemment, la lithographie peut être imprimée des nombres infinis de fois. Une photographie peut être réimprimée autant de fois que l'on veut. Mais l'auteur va faire une promesse qui va dire je ne vais créer que 100 éditions limitées de cette photographie. Il va les signer et ensuite il va les distribuer. Et ensuite il peut y avoir d'autres photos qui existent mais qui ne sont pas numérotées et qui ne sont pas signées par l'auteur et donc qui ont beaucoup moins de valeur que les copies qui ont été certifiées, signées et numérotées.
Alors une œuvre d'art numérique à 69 millions de dollars, un SMS à plusieurs dizaines de milliers d'euros, quelle est la part de spéculation dans le succès actuel des NFT ?
La spéculation joue toujours un rôle très important dans le monde de la blockchain et relativement aussi dans le monde de l'art. Donc là, c'est les deux qui se rencontrent. Donc évidemment, oui, la spéculation joue un rôle important puisque ce sont des dynamiques extrêmement spéculatives qui comportent en fait cette montée en valeur de ces œuvres. Après, pour moi, il y a quand même à reconnaître cette espèce d'innovation qui est assez révolutionnaire, qui est la possibilité, malgré tout, pour des artistes numériques de vendre leurs œuvres. Après, est-ce que ces œuvres valent vraiment plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars ? Peut-être pas. Mais en tout cas, la technologie en tant que telle, le fait que les artistes numériques peuvent s'appuyer sur les NFT pour vendre leurs œuvres d'art, ça va au-delà de la spéculation. Ça, c'est vraiment une innovation qui permet en fait aux artistes numériques de rentrer dans ce monde, dans le monde de l'art qui a besoin de collecter, qui a besoin d'acheter des œuvres uniques et originales. Et donc ça, c'est révolutionnaire. Après, les prix, je pense que pour l'instant, sont un petit peu gonflés par les dynamiques spéculatives. Ouais.
Alors, bien noté sur l'intérêt pour les artistes numériques. Cela dit, il y a la remarque de Benoît, et je reviens sur cette notion de rareté qu'on réintroduit dans l'univers numérique. Où est passé l'Internet des pionniers ? Liberté d'utilisation, partage, ouverture, transparence. Est-ce que ça n'est pas, au fond, au-delà d'une révolution, il y a une forme de retour en arrière avec cette évolution ?
Alors non, justement, c'est un discours qui revient souvent et c'est une question intéressante parce que justement ça peut porter à confusion. En fait, les NFT en tant que tels ne précludent absolument pas l'accès aux informations, l'accès au contenu, beaucoup moins en fait que la façon aujourd'hui dont les artistes numériques font monétiser leurs œuvres qui est avec les restrictions du droit d'auteur. Donc en fait, les NFT vont créer des copies uniques, mais le fait que je ne possède pas la copie unique ne va pas m'empêcher, au contraire, de profiter et d'être exposé aux œuvres, puisque maintenant les artistes peuvent monétiser leurs œuvres grâce aux NFT, dans ce cas, ils peuvent les communiquer, les disséminer sur Internet de façon beaucoup plus libre, parce que c'est en augmentant la visibilité de ces œuvres que la valeur de la copie originale va augmenter aussi. Et donc, en fait, les NFT, pour moi, c'est presque... Moi, je participe beaucoup aux activités de Creative Commons, qui est donc cette organisation qui se mobilise pour augmenter donc, la diffusion des informations, des contenus et des savoirs. Et en fait, les NFT, c'est presque un cadeau parce que ça fournit un business model à des artistes qui, autrement, leur seul business model, c'est de préclure l'accès à leurs œuvres et à vendre des licences de droits d'auteur, alors que là, ils peuvent distribuer librement, ouvertement leurs œuvres sur Internet et ils vont monétiser la copie.
Ok, préclure pour bloquer. Allez, question au standard. Question d'Annie pour vous, Primavera de Filippi. Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je vous entends parler essentiellement d'œuvres artistiques. Est-ce qu'une liste de ce qu'il est possible d'acquérir de cette façon a été établie, donc une liste avec des limites, et par extension, est-ce qu'on pourrait un jour acquérir l'âme d'un être humain, d'avoir ce genre de propriété.
Merci Annie. Ce qui peut s'acquérir via des NFT Primavera des Philippines, ce ne sont que des objets virtuels et des choses, si j'ose dire, virtuelles.
Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait on peut utiliser les NFT comme donc en fait les NFT c'est un peu tout ce qui est pas une crypto-monnaie et qui est un jeton sur la blockchain, c'est un NFT. Donc il existe des NFT qui ne sont pas associés avec des ressources numériques mais qui sont associés par exemple avec des ressources physiques, et donc qui par exemple je peux acheter une peinture physique qui va être associée avec un NFT, et l'NFT dans ce cas c'est uniquement le certificat d'achat, d'authenticité. Oui. Je peux acheter un bijou, un diamant, et je peux avoir l'NFT qui va tout simplement être la preuve d'authenticité de ce diamant. Donc on peut créer des NFT qui ne sont pas associés avec des ressources virtuelles, et si c'est possible, pourquoi pas, hein. Après, je pense que le problème, c'est plus une question juridique. Est-ce qu'on peut vendre notre âme? Mais on peut associer un NFT avec toute ressource qui peut être effectivement vendue et transférée.
Comment régule-t-on ce marché? Dans le monde de la finance, quand il y a une bulle ou un emballement, les banques centrales interviennent. Là, il n'y a pas l'équivalent.
Ben, là, en fait, ce sont des actifs, des ressources immatérielles. Donc c'est pas du tout dans le champ des crypto-monnaies, ce n'est pas un actif financier, ça comporte vraiment dans c'est les ressources immatérielles, c'est des ressources comme les ressources virtuelles, comme quand j'achète quelque chose sur le métavers, mais dans ce cas qui est contrôlé et administré par un réseau décentralisé qui est la blockchain. Donc au niveau de la réglementation, évidemment ça pose des questions puisque il n'existe pas cet opérateur qui va pouvoir administrer la propriété de ces ressources, parce que la propriété est gérée et régie par la blockchain et personne ne peut intervenir là-dessus.
Allez, on sort des NFT pour la dernière question. Je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît, Anthony.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai une question qui est un petit peu plus large que les NFT, oui. Qui concerne les plateformes d'échange de crypto-monnaies, qui proposent aussi des achats de NFT, oui. Et qui proposent des services de plus en plus pointus, des cartes type carte bancaire, de l'épargne, bref, tout ce genre de produits. Et j'en étais arrivé là, surtout en entendant monétisation d'œuvres, spéculation, transactions sécurisées. Est-ce que finalement, ces plateformes comme Coinbase, eToro, etc., ne vont pas devenir, à un moment donné, des alternatives crédibles à des produits qui sont des produits de commerce, d'échange, enfin bref, des produits bancaires?
Merci pour votre question, Primavera des Philippines. Vraiment en une poignée de secondes, s'il vous plaît.
En fait, tout à fait. Ces plateformes, elles ont, au début, en tout cas, elles se sont positionnées comme alternatives et presque comme des solutions disruptives pour contourner ces opérateurs financiers traditionnels. Mais en fin de compte, au fur des années, on se rend compte qu'elles sont en train de se reconsolider et de prendre la place, ou en tout cas d'accompagner en fait ces opérateurs financiers, et ils sont en train de redevenir des intermédiaires de confiance d'une certaine façon. Donc on commence à reconnaître que ces opérateurs tels que Coinbase en fait commencent à intervenir et interagir de la même façon qu'aujourd'hui on interagirait avec des banques.
Merci Primavera des Philippines. Je renvoie à votre Que sais-je sur les blockchains et les crypto-monnaies au-delà de ce qu'on s'est dit sur les NFT publié il y a quelques temps.